autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Chantal Leroux.
Depuis des siècles, les savants, on les appelle aujourd'hui les scientifiques, scrutent le ciel et les étoiles pour tenter de répondre à des questions vertigineuses. D'où venons-nous? Comment la Terre s'est-elle créée? Comment la vie est-elle apparue? Sommes-nous seuls dans l'univers? Et cet univers est-il fini ou infini? Quel est l'avenir de notre planète? La science et les technologies ont permis d'assouvir en partie notre soif de savoir, mais nombre de mystères demeurent. Alain Riazuelo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien chargé de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris, spécialiste des trous noirs, et vous publiez L'incroyable aventure de la Terre, Terre avec un T majuscule, aux éditions Humaine Science dans la collection Comment a-t-on su, dirigée par Étienne Klein. Pourquoi comparez-vous l'histoire de notre planète à une série Netflix ?
Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, il s'est passé beaucoup de choses. Et la nature a été très inventive dans tous les événements qui se sont produits pour que la Terre soit ce qu'elle est. Et donc finalement, oui, l'idée d'une série presque à rallonge, où il y a toujours des rebondissements, c'est imposé naturellement.
Alors on parlait de Netflix, Alain Riazuelo. L'univers a aussi beaucoup inspiré le cinéma. De 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick en 1968, à Interstellar de Christopher Nolan en 2014, dont on écoute la bande-annonce.
Nous disons que nous sommes, par définition, des êtres capables d'atteindre l'impossible. Et nous énumérons ces moments.
Le premier dans l'histoire à franchir le mur du son.
Ces moments où nous avons osé viser plus haut, forcer des barrières, toucher les étoiles.
Gemini 6, feu vert.
Faire de l'inconnu du connu.
Un bond de géant pour l'humanité.
Ces prouesses font notre plus grande fierté.
Qui a enflammé l'imagination de toute une génération.
Mais nous avons perdu tout ça.
On y rentre au port pour la dernière fois.
Ou peut-être avons-nous tout simplement oublié que nous restons des pionniers et que nous ne sommes qu'au début. Que nos plus grandes prouesses ne peuvent pas être derrière nous. Car notre destin s'étend au-dessus de nous.
Toucher les étoiles, faire de l'inconnu du connu, notre destin s'étend au-dessus de nous. Ça vous parle, Alain Riazuelo ?
Oh, c'est entraînant en tout cas comme affirmation. Après, que notre futur soit en dehors de la Terre, je serais un peu plus dubitatif. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à apprendre là-haut.
Alors dans votre livre « L'incroyable aventure de la Terre », vous racontez 13 milliards 800 millions d'années en seulement 326 pages. Comment avez-vous réussi cette gageure ?
Déjà en évacuant certains morceaux. En fait, l'idée, c'était d'expliquer d'où venait la Terre. Mais comme la Terre est composée d'une matière qui elle-même a été produite dans des étoiles qui ont précédé le Soleil, il fallait un peu étendre le propos et dire que les atomes dont nous sommes composés sont pour certains issus du Big Bang et d'autres issus d'étoiles qui ont vécu des milliards d'années après. Donc c'est un peu toute cette temporalité que j'ai essayé d'expliquer. Évidemment, c'est difficile de le faire en seulement 300 pages sans être trop technique. Mais bon, je pense que le tout se tient raisonnablement bien.
Mais vous avez travaillé combien de temps pour écrire ce livre ? Parce que le nombre de références est absolument faramineux.
Alors en fait, au départ, c'est un livre de cours que j'ai écrit ou que j'ai remanié, puisque j'ai fait la nouvelle édition d'un livre qui avait été écrit par André Braïc, célèbre planétologue français, qui est entre autres le découvreur des anneaux de la planète Neptune. Et donc on m'a demandé de faire la nouvelle édition de ce livre. Et tout en écrivant ou en remaniant cette édition, je me suis dit qu'il y avait matière là à faire non pas un livre pour des étudiants de licence, mais pour le grand public. Et donc c'est comme ça que cette idée m'est venue et je l'ai soumis à mon éditeur qui m'a fait confiance.
Alors, vous insistez beaucoup sur l'aspect puzzle de cette histoire de la Terre. Puzzle est une aventure collective, mais vous ne retracez pas seulement l'évolution sidérante des connaissances au fil des siècles. Vous soulignez aussi l'aspect humain de l'épopée, c'est-à-dire les penseurs, les philosophes, les scientifiques qui ont été les héros de cette aventure. Alors, certains sont très connus, d'autres un peu moins. Pour qui avez-vous une admiration particulière ?
Bon, il y en a beaucoup, donc c'est difficile de choisir, mais non, il y a quelques pionniers qui sont très courageux. Par exemple, les premières réflexions sur l'âge de la Terre, qui est incompatible avec ce qui est affirmé par la Bible, c'est l'œuvre d'un Français, d'un naturaliste, Georges-Louis Buffon. Et oser dire à l'époque, avec beaucoup de précautions, parce que Buffon était quelqu'un de très prudent, mais oser dire... En gros, la chronologie biblique, ça marche pas. Il fallait quand même avoir un peu de courage pour oser le faire et en le faisant, ouvrir une porte sur tout un domaine scientifique qui, à l'époque, n'existait même pas. Donc, c'est ça qui est beau. C'est pas forcément avoir la réponse soi-même, mais permettre aux autres de l'avoir dans le futur.
Alors personnellement, moi j'étais impressionnée par Giordano Bruno. Racontez-nous l'histoire tragique de ce philosophe et moine dominicain italien. On est en 1584, il publie un livre, L'infini, l'univers et les mondes. Et le livre va faire scandale. Pourquoi ?
Alors il va faire scandale pour des tas de prises de position théologiques, mais notamment une qui nous intéresse ici, puisqu'il dit « Il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar des sept terres que nous voyons tourner autour du soleil et qui nous est proche. » Et donc Giordano Bruno dit que la terre tourne autour du soleil, ce qui à l'époque était condamné par l'Église, mais il dit quelque chose d'encore plus vertigineux, il dit « la terre n'est pas unique », c'est-à-dire que le soleil est une étoile comme une autre, et si le soleil est entouré de planètes, ces autres étoiles sont entourées de planètes, et si la terre héberge la vie, peut-être que ces autres planètes hébergent la vie.
Donc il va plus loin que les travaux de Nicolas Copernic, qui avait été le premier à dire que la Terre n'était pas au centre de l'univers.
Oui, il reprend à son compte ça et il en déduit une forme d'anonymat cosmique. Il nous relègue à une forme d'anonymat cosmique, ce qui va évidemment être un casus belli pour les autorités religieuses de l'époque, parce que...
qui, elles, en sont restées à la thèse d'Aristote presque voilà, 2000 ans plus tôt.
Et qui adhèrent pour des raisons de pouvoir d'influence... à l'idée que l'univers a été fait par Dieu pour nous et pour nous seuls, et par ce biais, vous avez un lien privilégié avec le Créateur, si vous dites ça. Si, comme Giordano Bruno, vous dites qu'il y a une infinité de terres qui ont eu une infinité d'histoires différentes, même si toutes ces terres ont été créées par la même entité, vous n'avez plus ce lien privilégié. Et donc, les autorités religieuses ont moins de pouvoir sur vous, à vous dire il faut faire ceci ou cela. Et donc, c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles Giordano Bruno va se trouver en conflit avec l'Église. Et à cette époque-là, quand vous étiez en conflit...
Alors, il va se faire rattraper par l'Inquisition romaine, 8 mois de procès, et il renonce au moindre mea culpa.
Voilà, c'est ça. Il dit je ne renie rien, je ne vois pas ce que j'aurai à renier. C'est-à-dire, ce qui est évidemment ce qui signe son arrêt de mort, d'une certaine façon, puisqu'il, contrairement à Galilée, quelques décennies plus tard, qui dit « oui, d'accord, je me suis trompé », lui dit « non, moi, je reste en accord avec moi-même et donc je ne renie rien ». Et donc, évidemment, il sera condamné à la peine capitale.
Et il sera brûlé vif.
Voilà, en l'an 1600. Alors, il le sera pour ces prises de position-là, mais aussi pour des tas d'autres prises de position purement théologiques. Par exemple, il ne croyait pas à la virginité de la Vierge Marie, alors que c'était le dogme de l'époque. Donc, il a été envoyé au bûcher un peu pour l'ensemble de son œuvre, et pas uniquement pour des prises de position scientifiques. S'il est allé au bûcher, c'est précisément parce qu'il était un esprit libre. Et que cet esprit libre lui a fait à la fois envisager des hypothèses astronomiques audacieuses et remettre en cause le dogme.
Alors l'affaire Giordano Bruno nous amène à la question qui passionne beaucoup d'entre nous. Existe-t-il une vie extraterrestre ? La réponse de l'astrobiologiste Nathalie Cabrol, directrice de l'Institut Carl Sagan en Californie.
C'est pas une intuition du tout, c'est simplement... un fait statistique quand on regarde d'abord l'existence de la vie sur Terre, la diversité qu'elle a. Mais ensuite, on peut se dire, bon, la Terre, c'est quelque chose qui est unique, c'est une planète qui se trouve par chance dans la zone habitable dans le système solaire, c'est-à-dire là où on a les conditions pour que l'eau soit liquide à la surface, etc., etc. C'est notre modèle, encore une fois. Mais depuis 15 ans, 20 ans maintenant, on a les données de missions comme Kepler, qui recherchent les exoplanètes, et d'un seul coup, dans un tout petit coin de la Voie lactée, on a découvert des milliers de planètes, et une grande proportion de celles-là se trouvent dans la zone habitable de leur étoile.
Et donc,
il y a de grandes chances pour que des conditions qui ressemblent à celles que l'on connaisse pour la vie telle qu'on la connaît soient assez communes dans l'univers.
Nathalie Cabrol au micro de Nicolas Demorand sur France Inter. Alain Riazuelo, est-ce que vous partagez l'optimisme de Nathalie Cabrol sur la vie extraterrestre ?
Moi, je pense qu'il faut être un peu plus prudent que ça, parce que ce n'est pas une question anodine. Et donc, la bonne réponse à cette question, c'est on ne sait pas encore. Et j'insiste bien sur le pas encore, parce qu'il est possible qu'on sache dans pas très longtemps.
Quand vous dites pas très longtemps ?
Quelques décennies.
Ah, quand même.
Non, mais en fait, on peut renverser le problème. Si la vie est très commune dans l'univers, il y a des chances qu'elle soit relativement facile à détecter. Si elle est très rare, elle sera d'autant plus difficile à détecter. Donc, si la vie est aussi commune que ce que Madame Cabrol le dit, il est tout à fait plausible qu'on arrive à avoir la réponse assez rapidement. Mais ça reste un peu un pari aujourd'hui. Il y a des arguments qu'elle cite qui sont statistiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de planètes dans notre galaxie. Notre galaxie n'a rien d'exceptionnel. Donc...
Alors justement, il y a combien, vous pouvez nous rappeler le nombre d'étoiles, de planètes et de galaxies dans l'univers ?
Alors, dans notre galaxie, vous avez quelques centaines de milliards d'étoiles. Et notre galaxie est une galaxie typique. Et dans la région de l'univers qui est accessible à nos télescopes, vous avez quelques centaines de milliards de galaxies. Donc le nombre d'étoiles, c'est 100 milliards fois 100 milliards. Donc si vous l'écrivez, c'est un 1 suivi de 22 zéros. Maintenant, dans notre galaxie, on a cherché des planètes. C'est difficile de trouver des planètes, donc pendant des siècles, on n'en a pas trouvé. Depuis 1995, on a les moyens d'en trouver. C'est rare qu'on trouve des planètes parce que c'est rare que la configuration planétaire soit comme il faut pour qu'on la découvre. Donc on ne connaît que, si j'ose dire, quelques milliers de planètes. Mais comme on sait qu'il y a beaucoup plus de planètes que ce que l'on en découvre, on peut extrapoler au réel nombre de planètes comparées, etc. Et quand on fait ça, des chercheurs, notamment de mon institut, ont réussi à démontrer de façon à peu près certaine qu'il y a au moins autant de planètes que d'étoiles dans notre galaxie.
Oui.
Et si notre galaxie est une galaxie ordinaire, ce résultat, a priori, peut être extrapolé à toutes les galaxies de l'univers actuel. Donc ça fait du monde. Et comme ça fait du monde, que ça fait beaucoup de planètes, donc s'il y a autant de planètes que d'étoiles, ça fait encore ce 1 suivi de 22 zéros planètes. Et donc des espoirs d'autant plus augmentés que la Terre ne soit pas unique à ce point. Mais la preuve, on ne l'a pas.
Mais si une vie extraterrestre existe, c'est forcément sur une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui se trouve en dehors de notre système solaire ?
Alors on peut... La question se pose pour le système solaire. Donc les arguments utilisés pour qu'il y ait de la vie, c'est en général qu'il fasse pas trop chaud, pas trop froid, qu'il y ait de l'eau liquide. Donc dès que vous avez de l'eau liquide, vous avez un espoir potentiel que la vie émerge. A priori, sans eau liquide, ça semble très difficile. Il y a un relatif consensus là-dessus. Donc la vie, on va la chercher là où il y a, ou éventuellement là où il y a eu de l'eau liquide. Donc sur Terre, bien sûr, sur Mars, parce qu'on sait que Mars a été plus chaude qu'elle ne l'est actuellement, parce que son atmosphère était plus épaisse par le passé, il y a eu de l'eau liquide, donc peut-être qu'il y a eu de la vie, probablement disparue aujourd'hui. Et puis, il y a quelques satellites des planètes géantes, donc des satellites de Jupiter et de Saturne, qui sont gelés en surface parce qu'il fait très froid, mais qui ont un océan d'eau liquide sous glaciaire, où là aussi, il est possible que les conditions actuellement ou par le passé aient été réunies. Mais il faut aller voir sur place pour ça, et c'est quand même très compliqué.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on fait preuve d'un peu trop d'ethnocentrisme quand on imagine une autre vie ailleurs dans l'univers, voire une civilisation extraterrestre ?
Alors ça, c'est la question difficile. On ne connaît qu'un exemple de vie, c'est la vie terrestre basée sur l'ADN, etc. Si la vie est un phénomène générique, est-ce qu'elle est générique au point que vous ayez le même type d'ADN ailleurs ? On n'en sait évidemment strictement rien. Donc l'hypothèse un peu conservatrice que les gens ont, c'est chercher des conditions proches de celles qui sont sur Terre et réfléchir si une vie comparable à celle que l'on connaît a pu émerger. Mais c'est réduire le problème à ce que l'on connaît sans savoir quelle peut être l'inventivité qu'a eu la nature à ce sujet.
Je veux des trucs, mais c'est pricey. Si c'est avant, c'est du passé. Hein. J'arrive genre pile, c'est mon timing. Hein. Je vais recharger toutes mes batteries. Hein. Je veux des trucs, mais c'est pricey. Si c'est avant, c'est du passé. Hein. J'arrive genre pile, c'est mon timing. Hein. Je vais recharger toutes mes batteries. Hein. Je pense à avant, mais dans le vent. Je sens le stick, faut laisser le temps. Il me dit oui, il me dit non. Deux écrans ronds, parlons et tant. J'arrête le temps. Maintenant je dis que je veux l'amener avant. Yeah. Des fois je brille comme un diamant. Oh. Des fois je suis bloqué comme mon iPhone. Yeah. Des fois je quitte, je pars comme un avion. Debout sur la piste, c'est plutôt nice. Les nuits sont mon dormir, c'est le price. Il est parti, il est plus trop dans les bails. Au départ, et on est parti comme une balle bête. J'y balle love, donc ça finit toujours mal. La clé, elle est toujours sur moi. Et s'il y a un souci, ça finit en convoi. Je veux des trucs, mais c'est pricey. Si c'est avant, c'est du passé. Hein. J'arrive genre pile, c'est mon timing. Hein. Je vais recharger toutes mes batteries. Hein. Je veux des trucs, mais c'est pricey. Si c'est avant, c'est du passé. J'arrive genre pile, c'est mon timing. Hein. Je vais recharger toutes mes batteries. Hein. Je veux des trucs, mais c'est pricey. Si c'est avant, c'est du passé. Hein. J'arrive genre pile, c'est mon timing. Hein. Je vais recharger toutes mes batteries. Hein. Je veux des trucs, mais c'est pricey. Si c'est avant, c'est du passé. J'arrive genre pile, c'est mon timing. Hein. Je vais recharger toutes mes batteries. Hein.
Pricey, Sadhan Solo, extrait de l'album Sub-Sahara. Sadhan Solo qui sera en concert le 11 mai à la Flèche d'Or à Paris. Vous écoutez Autour de la question sur RFI. Nous sommes toujours en compagnie de l'astrophysicien Alain Riazuelo qui publie L'incroyable aventure de la Terre chez Humaine Science. À propos des conditions nécessaires à la vie, vous démontez hein, dans votre livre une idée communément répandue que l'oxygène est un des ingrédients indispensables à la vie. Vous expliquez que c'est tout le contraire.
Voilà, l'oxygène en fait a été n'existait pas dans l'atmosphère de la Terre primitive. Donc pour que la vie s'y développe, elle n'a pas eu d'autre choix que de se passer de cet oxygène. Et on peut inverser aussi la chose en disant est-ce que la vie pourrait émerger dans une planète où il y a de l'oxygène dans l'atmosphère? La réponse est plutôt non, parce que l'oxygène de l'atmosphère, il est très réactif. Et donc, il a tendance à altérer les molécules prébiotiques, les briques élémentaires du vivant qui se formeraient avant que le vivant n'émerge. Donc, la vie est apparue en l'absence d'oxygène. Puis, certains organismes ont fabriqué de l'oxygène qu'ils ont rejeté comme une sorte de déchet. Et comme ça a duré longtemps, l'atmosphère s'est enrichie en oxygène, au point que ça a provoqué une catastrophe écologique, parce que cet oxygène est devenu un poison et a drastiquement affecté la composition de l'atmosphère et le climat. Et par la suite, ça n'a pas éradiqué fort heureusement la vie, et les organismes qui ont survécu à tous ces bouleversements ont trouvé finalement un moyen, par le hasard de l'évolution, d'utiliser à leur avantage cet oxygène. Et nous utilisons cet oxygène comme carburant pour récupérer de l'énergie. Mais au départ, ce n'était pas du tout comme ça.
Alors, pour remettre les choses un peu en perspective, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'on constate lorsqu'on s'amuse à construire une maquette rudimentaire du système solaire ?
Alors, une des difficultés de l'astronomie, c'est que nous manions des chiffres astronomiques, et donc c'est des nombres avec beaucoup de zéros, donc c'est toujours un peu difficile.
22 zéros, tout
voilà,
à l'heure.
Voilà. Imaginons qu'on veuille représenter une maquette miniature du système solaire. Donc, on prend un ballon de football pour le Soleil, donc 20 cm de diamètre. La Terre étant 100 fois plus petite que le Soleil, si vous voulez la représenter, ça va être une tête d'épingle de 2 mm. Et la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 100 fois la taille du Soleil. Donc, ce n'est pas 20 cm, c'est 20 mètres. La Terre autour du Soleil, c'est une tête d'épingle à 20 mètres d'un ballon de football. Et pour vous représenter cette fois l'étendue de l'univers au-delà du système solaire, la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche, donc le plus proche ballon de foot, si vous voulez, c'est 250 000 fois la distance Terre-Soleil. Donc à l'échelle de la maquette, c'est 5000 km. Donc le premier système stellaire que vous voudriez vouloir atteindre, il est 250 000 fois plus loin que le Soleil. Et donc c'est une mauvaise nouvelle déjà parce qu'on n'y arrivera jamais, c'est trop loin. Et c'est une difficulté pour les astronomes parce que c'est difficile d'étudier à une telle distance les systèmes planétaires. Donc en particulier, on n'arrivera jamais probablement à imager une planète. On peut détecter des planètes, on peut voir la lumière d'une planète sous forme de points lumineux, mais on ne pourra jamais faire une carte d'une planète extrasolaire. Ça, évidemment, c'est hors de question. Et toute la difficulté, c'est quelle information on peut tirer de cette configuration-là. Et jusqu'à quel point on peut trouver des traces éventuellement indirectes de vie sur ces planètes-là.
Alors on va faire maintenant un immense saut en arrière pour revenir au Big Bang. On peut dire que le Big Bang est l'acte de naissance de l'univers ?
De l'univers tel qu'on le connaît, en fait. On ne sait pas si l'univers est né au moment du Big Bang ou si le Big Bang est une transition entre un état antérieur et l'état actuel, mais... En tout cas, l'univers tel que nous le connaissons est issu d'une phase très dense et très chaude, qu'on appelle le Big Bang, qui s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. Donc la date est connue avec une précision meilleure que le pourcent. Et on comprend dans les grandes lignes comment un univers au départ très chaud et très peu structuré s'est peu à peu structuré sous l'effet de la gravitation qui a formé des galaxies au sein desquelles se sont formées des étoiles, etc. Et comment les générations d'étoiles ont fabriqué de la matière, ont transformé la matière dont elle-même était constituée en atomes dont nous sommes, nous, constitués.
Jusqu'à combien est montée la température au moment du Big Bang ?
Ça fait partie des questions qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la réponse. Ce que l'on sait vérifier avec des expériences de laboratoire, c'est comment la matière se comporte quand la température est de 1 million de milliards de degrés, donc 1 suivi de 15 zéros. Donc on sait remonter de façon assez robuste l'histoire de l'univers jusqu'à l'époque où la température était à cette valeur-là. Et ensuite, on extrapole avec de plus en plus d'incertitudes ce qu'il se serait passé à des époques antérieures où la température était encore plus élevée. Mais évidemment, avec un degré de certitude qui s'amoindrit au cours... à mesure qu'on remonte dans le passé.
Et cette épopée de l'univers, vous la retracez avec des échelles en milliards d'années. En revanche, quand vous racontez le refroidissement de l'univers, donc juste après le Big Bang, vous parlez de secondes. Pourquoi tout est allé si vite ?
En général, les choses se produisent d'autant plus vite qu'il fait chaud. Donc l'univers très chaud évoluait très rapidement. Et à mesure qu'il se refroidit, le rythme des choses ralentit. Ce qui est une très bonne chose parce que pour ce qui est de la vie sur Terre, on a eu besoin de beaucoup de temps pour passer de la Terre primitive à la vie multicellulaire que l'on connaît. Donc c'est heureux qu'on ait eu suffisamment de temps pour tout ça.
Tout à l'heure, vous parliez des étoiles et des galaxies. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui l'âge des premières étoiles et des premières galaxies ?
Alors, on sait qu'elles sont un peu moins âgées que l'univers. De combien ? On ne sait pas trop. Plus vous regardez loin, moins les objets sont lumineux, donc plus c'est difficile de les voir. Et donc, le télescope James Webb, qui a été lancé en décembre 2021, a pour mission justement d'identifier les toutes premières galaxies et donc de répondre à cette question de l'âge des premières étoiles.
Donc on aura la réponse quand ?
Bientôt.
C'est un peu vague.
Non, on sait que quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, il y avait déjà des étoiles. Ce qui intéresse vraiment les astronomes, c'est le moment de l'allumage des toutes premières. Est-ce que c'est 100, 200 millions d'années après le Big Bang ? C'est ce genre de questions-là auxquelles on veut répondre. Et ce qui nous intéresse aussi, c'était... quelles étaient ces étoiles en termes de masse, en termes de nombre, etc. Puisque ces premières étoiles ont fabriqué ou transformé la matière qui a servi aux générations suivantes d'étoiles. Donc évidemment, si on veut reconstituer la chronologie de la matière, savoir quand et comment se sont formées les premières étoiles, c'est évidemment une étape importante.
Et il va se passer combien de temps entre le Big Bang et l'apparition de la vie sur Terre ? Et quelle sorte de vie, quand on parle de vie, c'est pas nous, hein, c'est pas...
Non, effectivement. Donc, le système solaire est âgé d'environ 4 milliards et demi d'années, ce qui veut dire que le Soleil s'est formé un peu plus de 9 milliards d'années après le Big Bang. Et 9 milliards d'années après le Big Bang, il y avait eu déjà de nombreuses générations d'étoiles qui ont fabriqué le fer, le silicium, l'oxygène, le carbone, enfin tout ce dont la Terre est constituée. À l'issue du Big Bang, vous n'avez que deux types d'atomes dans l'univers, vous avez l'hydrogène et l'hélium, donc vous ne pouvez pas fabriquer de planètes ou d'êtres vivants. Vous avez besoin de nombreuses générations d'étoiles pour fabriquer le substrat terrestre sur lequel nous vivons. Donc, plus de 9 milliards d'années entre le Big Bang et la formation du système solaire et de la Terre. Une fois que la Terre s'est formée, combien de temps la vie a mis pour apparaître? On ne sait pas encore bien. C'est-à-dire que les plus anciennes traces de vie avérées sont vieilles de 3,4 milliards d'années. Donc un peu plus d'un milliard d'années après la naissance de la Terre.
Vie sous quelle forme?
Alors vie unicellulaire à cette époque-là. Dans les 400 millions d'années qui ont précédé, donc jusqu'à 3,8 milliards d'années dans le passé, on a des traces fossiles qui ressemblent furieusement à ce que pourraient être des fossiles de cellules. Donc on a deux. Je pense que la majorité des gens pensent que la vie a existé jusqu'à au moins depuis 3,8 milliards d'années. Et quand on remonte encore plus loin, on a des traces plus indirectes qu'on ne sait pas bien interpréter. Et donc évidemment, dans la question est-ce que la vie est fréquente dans l'univers, le temps d'apparition de la vie sur Terre est un paramètre important, puisque selon que la vie a mis longtemps ou pas longtemps à apparaître, ça va renforcer l'unicité ou le fait que la vie est commune. Donc évidemment, c'est une question scientifique très importante.
Et qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Quelles sont les hypothèses qui circulent?
On ne sait pas. Je vous dis, on ne sait pas si le Big Bang est l'acte de naissance de l'univers proprement dit ou une transition. On pourrait tout à fait imaginer, j'ai des collègues dans mon institut qui travaillent sur ça, un univers qui est au départ très vide et en contraction, puis qui se comprime jusqu'à atteindre une densité extrême. Et il y a un phénomène de rebond qui le fait entrer dans la phase d'expansion qu'il connaît aujourd'hui. Donc, dans ce cas-là, le Big Bang est la transition entre cette phase de contraction et d'expansion. Dans d'autres cas, c'est vraiment l'acte de naissance de l'univers. Donc la question du « avant » ne se pose pas. Mais comme je vous dis, plus vous remontez loin dans l'histoire du Big Bang, moins vous avez de traces, donc moins il est facile de distinguer entre ces différents scénarios. Il y a moyen de le faire, mais ça reste très parcellaire et pas forcément discriminant dans tous les scénarios qu'on a envisagés.
I turn it right and right and right instead of turning left. But boy, your patience is a magic kind of medicine. Cause every spiral brings me back into your arms again. So no regrets, cause you're my sunset, fiery red. Forever fearless and in your arms, a warm horizon. Don't look back, let's ride. Stories we were told about a safety net, but when I look for it, it's just a hand that's holding mine. I'm wearing black to mourn the sudden loss of innocence, and that's all right because it hides the dirt and hides the wine. You said no regrets, cause you're my sunset, fiery red, forever fearless, and in your arms, a warm horizon. Don't look back, let's ride.
Caroline Polacek dans Autour de la question sur RFI. Alain Riazuelo, je vous propose maintenant d'écouter l'astrophysicien Hubert Reeves, très inspiré par la magie du cosmos.
Ce grand univers qui s'ouvre à nous quand nous regardons le ciel étoilé, il nous faut apprendre à le reconnaître comme notre habitat, notre maison commune, notre foyer. Il est le lieu et le siège de tous les phénomènes qui nous ont amenés à exister et à être ce que nous sommes aujourd'hui. Il héberge notre histoire entière, passée, présente, future. Il en est le réceptacle. Grâce à ses œuvres, étalées sur des milliards d'années et sur des milliards d'années-lumière, nous pouvons prendre conscience de notre présence ici, sur une planète bleue, près d'une étoile jaune, le Soleil, dans une somptueuse galaxie spirale, la Voie lactée. Nous sommes des poussières d'étoiles. Tel est le beau message de l'astronomie.
Nous sommes des poussières d'étoiles, disait Hubert Reeves, car tous les noyaux des atomes qui nous constituent ont été engendrés au centre d'étoiles mortes il y a plusieurs milliards d'années. Vous, Alain Riazuelo, vous spoliez quasiment la fin de cette incroyable aventure de la Terre en écrivant « Sauf billard gravitationnel improbable initié par Mercure, la Terre ne bougera pas ou la Terre ne bougera guère de son orbite et fusionnera avec le Soleil. » Alors cela devrait se passer dans 7,6 milliards d'années. Nous redeviendrons alors des poussières d'étoiles.
Exactement. Alors, la question de la fin de la Terre, elle a fasciné les gens même avant que la science n'ait son mot à dire. Hein. À quoi ressemblera la fin du monde ? Et donc aujourd'hui, étant donné qu'on comprend comment fonctionnent les étoiles, on sait avec certitude que le Soleil, quand il arrivera en fin de vie, va beaucoup grossir. Il va grossir au point que sa taille sera supérieure à la distance qui le sépare actuellement de la Terre. Autrement dit, la Terre va se faire happer par le Soleil un petit million d'années avant qu'il n'atteigne le maximum de cette expansion. Donc la fin de la Terre n'est pas dans l'univers, elle est dans le Soleil. Mais comme le Soleil va continuer à évoluer pendant quelques centaines de millions d'années après ce moment-là, il va perdre une partie de sa masse. Et donc, la Terre qu'il aura incorporée sera en partie rendue au milieu interstellaire.
Donc, ça veut dire que cette fin pourrait ne pas en être une.
Alors, pour les atomes individuels, effectivement, ça n'en sera pas forcément une. Certains atomes auront été transformés dans le Soleil, d'autres seront expulsés tels qu'ils sont actuellement.
Et après, ils pourraient servir à fabriquer de nouvelles étoiles ?
C'est tout à fait possible. Alors, les galaxies fabriquent des étoiles à un rythme qui décroît au cours du temps. Donc, le taux de production d'étoiles va se tarir peu à peu, mais il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent totalement dans 7 milliards d'années. Donc, il y aura de nouvelles étoiles qui naîtront après la mort du Soleil, et qui incorporeront peut-être des atomes qui nous auront constitués, nous.
Et elles pourraient être entourées de planètes.
Exactement.
Qui éventuellement abriteront
voilà.
La vie.
Et quand vous essayez de regarder le rapport entre la masse d'un individu et la masse du Soleil, et que vous comparez ça au nombre d'atomes d'un individu, en fait, vous vous rendez compte qu'un gros organisme comme un arbre contient suffisamment d'atomes pour que, s'il est rendu au milieu interstellaire à l'issue de la vie du Soleil, et qu'il est incorporé à un système stellaire en formation, il y aura quelques atomes de cet arbre qui seront dans quelques organismes vivants qui seront là-bas. Donc,
mais est-ce que
il y aura
ça
une sorte de recyclage que permet la nature.
Donc, alors, si vous dites recyclage, mais est-ce que ça peut vouloir dire que dans l'univers, tout est un éternel recommencement ?
Alors non, parce que le rythme auquel on fabrique des étoiles dans l'univers a tendance à se tarir. Donc le maximum de la fabrication d'étoiles a été atteint il y a 6 milliards d'années, je crois. Et depuis, on est un peu sur la pente descendante.
Et alors, donc, qu'est-ce qui se passera quand il n'y aura plus du tout d'étoiles ?
Alors, les galaxies existeront encore, mais elles seront remplies non plus d'étoiles, mais de cadavres stellaires. Donc, on aura un univers extrêmement froid et un peu lugubre. Et on peut s'amuser à essayer de réfléchir sur des échelles de temps de plus en plus longues, quels seront les rares processus physiques qui se produiront encore, malgré le fait qu'il n'y aura plus beaucoup d'énergie disponible. Donc, ça nous amène très loin. Donc, d'une certaine façon, la matière dont nous sommes composés durera très longtemps. Et les objets que nous aurons envoyés loin de la Terre, comme les sondes Voyager, devraient survivre à l'extinction non seulement du Soleil, mais à la fin de notre galaxie. Donc il y aura un petit bout d'humanité que, évidemment, plus personne ne sera là pour contempler, mais qui témoignera de notre existence passée pendant des durées qui se comptent en milliards de milliards de milliards d'années, donc un suivi de beaucoup
donc
de zéro.
Donc on a encore un petit peu de temps. Voilà. Une auditrice, Mamie Rokotomiaou, nous a adressé une question pour vous. Le destin de la Terre est un sujet fascinant. Est-ce que le destin de l'homme sera toujours lié au destin de la Terre?
Alors, l'espérance de vie des espèces vivantes est assez courte à l'échelle des temps cosmiques. Donc, le destin de l'homme, il est lié à ce que nous allons faire de la Terre, je dirais. Maintenant, si on a une vision un peu plus large, le destin de la biosphère en général est lié à celui de la Terre, puisque, comme je vous ai dit, le Soleil va progressivement grossir. Donc, il va faire de plus en plus chaud sur Terre jusqu'au jour où la Terre deviendra inhabitable à cause de l'évolution du Soleil. Donc, les gens essaient de faire un peu ce calendrier de la fin du monde, ce qui est difficile à établir, parce que c'est difficile de voir comment la biosphère réagit à des conditions de plus en plus hostiles. Mais à peu près tout le monde est d'accord pour dire que d'ici 2 milliards d'années, la Terre sera certainement devenue inhabitable. Donc est-ce que la vie disparaîtra dans 1 milliard et demi d'années ou 2 milliards, ça je ne sais pas. Mais au bout de 2 milliards, a priori, fin de partie, c'est plus là que la vie existera. Et cette idée que la vie va de toute façon s'arrêter sur Terre, dès que les scientifiques ont réfléchi à ça, ça a provoqué des angoisses. Et il y a des tas de textes qui datent du 19e siècle où les scientifiques ou parfois de simples écrivains réfléchissent à ce vertige de la fin de toute chose, non pas par une volonté divine, mais par la force des lois physiques.
Alors j'ai une question justement vertigineuse pour vous, Alain Riazuelo. Nous sommes le fruit du hasard ou le résultat d'un enchaînement de processus naturels, naturels ou pas d'ailleurs?
Le hasard est naturel, donc les deux, je serais tenté de dire.
Mais l'enchaînement de processus?
Alors, on ne sait pas comment la vie est apparue, on ne sait pas avec certitude. Et ce n'est pas sûr qu'on le sache un jour, parce que même si on arrivait à faire émerger la vie en laboratoire depuis un milieu inerte, on aurait juste trouvé un moyen de faire apparaître la vie. On n'aurait pas forcément prouvé que c'est comme ça que ça s'est passé sur Terre. Donc il y aura de toute façon beaucoup d'incertitudes sur la façon dont la vie est apparue sur Terre. Donc ce qu'on sait et ce qui a été compris dès les années 30, c'est que pour que le vivant émerge, il faut que les briques élémentaires émergent, donc ce qu'on appelle les acides aminés qui composent l'ADN, par exemple. Les gens ont compris très tôt qu'il y avait probablement des processus naturels qui fabriquaient ces acides aminés, qu'on a effectivement retrouvés dans des comètes. Donc on sait qu'à la surface des comètes et probablement à la surface de la Terre primitive, les conditions étaient réunies pour que ces briques élémentaires se fabriquent. Et puis ensuite, tout ça s'est assemblé de façon un peu mystérieuse pour former des objets qui, un jour, ont eu cette capacité de reproduction. Et donc, évidemment, il y a énormément d'étapes qu'on ne sait pas, mais le type de briques élémentaires dont on a besoin, au moins pour le vivant terrestre, on les connaît. Des processus qui fabriquent chacune de ces briques, on en connaît. Donc, d'une certaine façon, on a envie de dire que il n'y a pas une étape limitante à ce niveau-là. Comment tout ceci et où tout ceci s'est mélangé pour fabriquer des structures moléculaires beaucoup plus complexes. Ça, évidemment, on ne le sait pas. Et ça occupe évidemment beaucoup de mes collègues, mais qui ne sont plus des astrophysiciens, qui sont plutôt des biologistes. Mais évidemment, c'est une question à laquelle tout le monde a envie d'avoir la réponse.
On va sortir un petit peu de votre livre. Quoique, une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et la Fondation Reboot en janvier dernier a montré combien l'adhésion à des vérités alternatives progressait chez les jeunes Français de 18 à 24 ans. Entre eux et la science, la méfiance prévaut, comme l'explique François Cros, co-auteur de l'étude au micro de Sud Radio.
Un sentiment de défiance croissant hein, à l'égard des bienfaits de la science pour l'humanité. Hein. En 1972, donc c'était plutôt la génération RTF, on était avec 55% des jeunes qui pensaient que la science avait un effet positif sur l'homme. Aujourd'hui, c'est plus de 33%. Le reste, on a un rapport plutôt plus nuancé, plus ambivalent. Donc, on voit bien que tout un ensemble de critiques hein, structurelles hein, qui datent des années 60-70, mais qui prennent sans doute de l'ampleur aujourd'hui, avec la prise de conscience de la crise climatique qui est très forte dans cette génération, oui. On dit la génération Greta, eh ben, il est probable que voilà, ça, traduit par une méfiance très forte, mais qui n'est pas juste un réflexe anti-science isolé. Il va aussi de pair avec la croyance à l'adhésion à tout un ensemble de contre-vérités scientifiques, qui est encore plus inquiétant.
Et on peut citer quelques exemples de contre-vérités scientifiques qui séduisent les jeunes générations. Il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école, déclarent 16% des jeunes. 19% affirment qu'à l'époque antique, les pyramides égyptiennes ont été bâties par des extraterrestres. 20% pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Et 27% rejettent la théorie de l'évolution de Darwin. Est-ce que les résultats de cette étude vous inquiètent, Alain?
Ça me chagrine en tout cas, parce que c'est dommage. On a les moyens aujourd'hui de ne pas être ignorant et finalement, des gens, alors je ne sais pas s'ils tombent dans l'ignorance ou s'ils font le choix de l'ignorance, je n'ai pas souvent discuté avec des complotistes et des types différents de complotistes pour avoir vraiment une vue de ça, mais... alors qu'on a les moyens de faire des choses extraordinaires, voir que des gens rejettent des résultats qui étaient connus quand même depuis la Grèce antique. Hein, le fait que la Terre est ronde, ça a été démontré de façon limpide par Aristote il y a 24 siècles. Donc ça évidemment, ça chagrine beaucoup. Mais ça dit peut-être que, ben oui, en science, il ne suffit pas d'énoncer un résultat. Parce que si vous annoncez un résultat, finalement, vous demandez à vos interlocuteurs de, les croire, de vous croire sur parole. Il faut expliquer... Comment on est arrivé là? Il faut expliquer comment a-t-on su, ce qui est le nom de la collection dans laquelle j'ai publié ce livre. Et c'est précisément la raison d'être de cette collection, de dire que ben, la science se comprend d'autant mieux qu'on comprend comment elle s'est peu à peu construite.
Donc finalement, rien n'est jamais acquis. Le mathématicien et physicien Pierre-Simon Laplace, que vous citez en exergue de votre conclusion, le disait déjà à sa façon finalement en 1835.
Oui, donc ça, on remonte à 2 siècles. Il dit, les hautes connaissances ont rendu d'importants services à la navigation et la géographie. Bon, on est dans les années 1800, hein, il cite ces deux disciplines. Mais leur plus grand bienfait est d'avoir dissipé les craintes produites par les phénomènes célestes et détruit les erreurs nées de l'ignorance de nos vrais rapports avec la nature, erreurs et craintes qui renaîtraient promptement si le flambeau des sciences venait à s'éteindre. Et donc Laplace, je ne sais pas s'il a une crainte, mais il a conscience que le fait que la science progresse n'est peut-être qu'un état éphémère et que ce n'est pas forcément un acquis définitif et que de la même façon que la science est un peu éteinte pendant le Moyen-Âge, on ne peut pas exclure qu'on ait d'autres périodes comme ça à l'avenir. Et il vaut mieux en avoir conscience avant qu'il ne soit trop tard.
On a encore une question d'une fidèle auditrice pour vous, Alain Riazuelo. C'est Bao Abraham Rakoto qui nous écrit « L'incroyable aventure de la Terre, cela ferait un beau titre pour un livre d'initiation pour les petits. L'auteur pense-t-il en faire une version un peu dans le style conte? Cela réveillerait sûrement l'intérêt de nos bambins pour la science. » Alors, vous êtes prêt à écrire un conte pour enfants,
Alain? Il faut demander à mon éditeur. Il y a beaucoup de phénomènes physiques compliqués qui interviennent, donc c'est pas évident. C'est d'autant plus difficile à expliquer qu'on s'adresse à des enfants plus jeunes. Donc c'est la raison pour laquelle moi je me suis jamais lancé dans cette entreprise-là.
Et peut-être que ce serait bien de les accrocher justement.
Oui, non, mais il y a des éditeurs qui font ça très bien. Donc on peut faire quelque chose. Je suis sûr. Le plus important, c'est de rendre les gens curieux. Et si vous suscitez la curiosité dès le plus jeune âge, vous aurez des gens qui resteront curieux et qui seront d'autant plus informés qu'ils sont restés curieux. Et donc, ils seront, je pense, des citoyens d'autant plus concernés et à même de faire des bons choix quand l'occasion se présentera.
Bah d'ailleurs, restez curieux, c'est le conseil que Caroline Lachowski donne régulièrement à nos auditeurs. J'ai encore une dernière question. De toutes les planètes, c'est Mars qui suscite le plus d'intérêt. Pourquoi ?
Alors déjà, pour une raison pratique, Mars est la planète la plus facile à atteindre depuis la Terre. pour des raisons ensuite de conditions qui règnent. C'est-à-dire que Mars est un milieu très hostile comparé à la Terre, mais infiniment plus bienveillant comparé à Vénus, où il fait 400 degrés, et où donc l'espérance de vie d'une sonde qui s'y poserait se compte maximum en heures. Hein. 2h07 pour les sondes russes soviétiques qui, dans les années 80, s'étaient posées sur Mars. C'était posé sur Vénus. Donc Mars est la planète la plus simple à explorer. Et comme c'est celle où les conditions sont les moins extrêmes comparées aux autres planètes, c'est naturellement un endroit où on va avoir envie d'aller faire des analyses pour voir s'il n'y a pas d'autres traces de vie, évidemment.
Alors on va se quitter justement avec Life on Mars, chef-d'œuvre de David Bowie, revisité par sa bassiste Gail Ann Dorsey sur l'album de M, Rivalité augmentée.
It's a god-awful small affair to the girl with her mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, 'cause she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know he's in the best. Lenin's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Cross. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and cow. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more.
Life on Mars, Gail Ann Dorsey. Merci beaucoup Alain Riazuelo d'avoir été l'invité d'Autour de la question. Je renvoie nos auditeurs à votre livre « L'incroyable aventure de la Terre » paru chez Humaine Science. À la réalisation, il y avait Thibaut Baduel et à la programmation Caroline Fillette. Lundi, c'est Caroline Lachowski que vous retrouverez à ce micro. À bientôt et portez-vous bien.